On va commencer par quelques lectures. Il y en a certaines que je lirai, d'autres pas, mais quand je ne les lis pas, elles sont quand même affichées. Donc vous pouvez suivre le texte. Je commencerai par Marc 15, versets 34 à 37. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire: voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna en disant: laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. La prochaine lecture, c'est Luc 23, versets 40 à 44. Donc, je ne lis pas, mais c'est affiché. Alors, ce matin, je vais vous parler des dernières paroles du Christ sur la croix. Hein. C'est souvent l'objet de plusieurs prédications, mais je situe toutes une bonne partie des paroles qu'il a prononcées, et j'insisterai sur l'une d'entre elles. Alors, ce qu'il a dit avant de mourir, et je tenais à lire les paroles qui sont mentionnées dans les quatre évangiles. Bon, j'ai pas cité Matthieu, mais il redit exactement ce qui est dans Marc 15. Alors, pourquoi? Pour nous donner tout simplement une idée plus précise du contexte. Alors, on connaît souvent par cœur tous ces textes, hein, mais une fois que vous les reconstituez, et on voit qu'il y a plein de petits détails qui ont une énorme importance et qui sont riches en enseignements. Alors, ce que nous allons voir, c'est le but, c'est d'arriver surtout à se concentrer sur les passages qui restituent cette parole qui est un peu étrange sur l'abandon de Dieu. Hein, quand il dit Dieu, 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 pourquoi tu m'as abandonné? Et un peu plus loin, il dit d'autres paroles. Donc, dans Jean 19, verset 27 à 30. Alors, ce cri que Jésus pousse en parlant à son Père nous émeut, parce qu'on a énormément de mal à comprendre le pourquoi, sachant que Jésus savait à quoi s'en tenir. Sachant aussi que la décision de mourir dans une souffrance qui est quand même insoutenable a été prise en accord avec Dieu, le Père et le Fils. Et ce qui est extraordinaire, on se dit que Dieu est quand même allé jusqu'au bout. Alors, ce que je veux partager, attendez, je descends un peu. Alors, ce que je veux partager, c'est ce que Jésus a pu éprouver dans son corps, dans sa chair. Hein. On se dit bien sûr que rien n'est impossible, c'est vrai, mais à tout moment, il aurait pu interrompre, je dirais, cette souffrance et cette crucifixion. Donc, on peut lire ça dans Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi: « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, on voit que Jésus souffre pleinement dans sa nature humaine, et c'est sûr que c'est sa nature divine qui lui permettra de vaincre, je dirais, toute cette lutte contre les démons, contre la mort. Hein. Et donc, on voit que à travers ces paroles les dernières paroles du Christ, le panorama, il est quand même très large. Donc, on va essayer d'y voir un peu plus clair en passant en revue quelques paroles de Jésus, et j'en ai choisi quelques-unes. Notamment cette parole où il dit « tout est accompli ». Donc, je ne vais pas énormément m'étendre là-dessus. Ce que je retiens, c'est que ce qui est important pour moi, donc on peut aussi citer, on va regarder dans Jacques 1, verset 17, ce qui est important pour moi, quand il dit tout est accompli, c'est de savoir que Dieu n'est pas une personne changeante ou instable. Ce qu'il a décidé, il le fait jusqu'au bout. Et c'est la même chose pour Jésus. À chaque fois qu'on prend la Sainte Cène, on refait pas le sacrifice de Jésus, mais on se le remémore. Donc, à travers cela, c'est l'assurance de ma foi qui repose sur un fait que rien ne changera la nature de Dieu. Et s'il a tout accompli, ben on sait que rien ne peut nous arriver dans notre relation avec Dieu. Et que l'amour qu'il éprouve pour moi, pour chacun de nous, est quelque chose d'inamovible. Donc, l'accomplissement à la croix reste quand même un fait unique et historique. Et c'est quelque chose la mort à la croix et la résurrection, quelque chose qui intervient directement dans notre justification et la résurrection dans notre sanctification. Donc je passe rapidement sur cette parole qui mériterait bien sûr toute une prédication continue. Et là il dit à un moment, voilà ta mère. Alors ça, c'est que vient faire cette phrase en plein milieu du supplice. Jésus aurait pu régler la question de son vivant, mais alors pourquoi il le fait maintenant? Alors je pense que les apôtres, et en particulier Jean, ils auraient absolument pas compris la demande de Jésus, parce que à aucun moment les apôtres imaginaient une fin pareille, quoi. Hein. De son vivant, je conçois mal Jésus dire à Jean, écoute, il faut que tu t'occupes de ma mère, une fois que je serai mort, que je serai crucifié, ressuscité et enlevé au ciel. Et je pense que Jean, il n'aurait pas compris le déroulé de la fin du ministère de Jésus. Et ce qui est important là-dedans, c'est que la famille est présente, est tout le temps présente, pour accompagner Jésus jusqu'au bout de sa mission. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on a l'impression que la famille n'a pas d'importance pour Jésus, hein, et on s'appuie souvent sur le verset, sur le texte suivant, dans Matthieu 12, verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Alors, Jésus tient simplement à recadrer les choses. Hein. Ce qui est le plus important, il le dit quand il le dit un peu avant, à l'âge de 12 ans, c'est de m'occuper des affaires de mon Père. Donc, Jésus souligne ici qu'il peut y avoir des liens plus intimes que les liens familiaux, comme celui qu'il est rattaché à ses disciples. Donc, mais il ne s'agit pas ici ni de mépris, ni d'un manque de considération. Il s'agit de savoir pourquoi Jésus dit cela avant de mourir. Mais tout simplement parce que la question familiale, elle est totalement contenue dans l'œuvre de Christ. Il faut savoir qu'il y a quand même le lien avec le Père, il y a Jésus qui a un lien très fort avec sa famille terrestre, et puis il y a le fait aussi qu'il a toute cette filiation généalogique qui le fait remonter jusqu'à David. Donc en tant que chrétien, on a une responsabilité spirituelle, je dirais, d'attachement et puis de prise en compte affective. C'est le texte qui le dit dans 1 Timothée 5, verset 8. C'est quand même un verset très tranchant. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc voilà, on voit exactement comment les choses sont situées, c'est clair et net. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut toujours essayer de résoudre les problèmes qu'il y a dans les familles, mais au moins de dire qu'on essaie d'apporter une réponse. Il y a quelque chose qui est entrepris. Alors une autre parole, celle du brigand. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, où est-ce qu'il est Jésus pendant 3 jours, quand il est dans le tombeau? Est-ce qu'il est au paradis? Alors, la réponse, c'est son esprit est auprès du Père dès qu'il est mort. Hein, dans Luc 23, verset 44, il dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant ces paroles, il expira. » Mais son corps est quand même contenu en l'état, car il est dit qu'il n'a pas vu la corruption. C'est important de dire toutes ces choses. Dans Acte 2, verset 31, il est dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, et en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc, Jésus n'est pas descendu, comme certains peuvent le penser, dans les enfers et il aurait prêché l'évangile aux morts. Hein, des fois, j'ai déjà entendu ce type de croyance, notamment par rapport à ce verset, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 19 à 21, qui est quand même un texte assez particulier. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers les eaux. Alors tout simplement, Il s'agit de l'esprit de Christ, hein, qui c'est dit dans plusieurs fois dans l'Écriture que c'est l'esprit de Christ qui était en Noé, et pendant toute sa vie, ce brave Noé, il a prêché la repentance avec l'esprit de Christ et la venue du déluge. Alors les esprits en prison, notamment, ce sont toutes ces âmes rebelles qui n'ont pas accepté, qui sont mortes pendant le déluge. Et comme tout le monde, elles attendent le jugement dernier. Donc, c'est ces âmes captives qui sont en prison. Je dis cela, j'ai lu plusieurs commentaires sur ce passage, et effectivement, on aurait pu croire que c'est beaucoup plus large, mais là, il s'agit quand même de la période de Noé. Donc, voilà, c'est une des interprétations qui est là. Et en plus, j'imagine mal de Jésus descendre en enfer, prêcher l'évangile, convertir des âmes, ce qui voudrait dire qu'il y aurait une deuxième chance après la mort, ce qui est anti-biblique. Donc je n'irai pas plus loin parce que le sujet est quand même est pas mal corroboré par plusieurs passages, et c'est vrai que autour de la crucifixion, il se passe quand même il se passe des choses un peu surnaturelles. C'est tout à fait normal, hein. Ça, faut savoir quand même que la mort de Jésus, c'est toute la création tend vers ce moment-là, la crucifixion, la mort et la résurrection, et ensuite une partie de l'histoire de l'humanité part de cela. Et puis va jusqu'au retour de Christ. Alors donc quand Jésus, je reviens un peu sur la parole, donc quand Jésus dit qu'il est au paradis, il signifie que c'est son esprit qui est au ciel, mais que son corps n'est pas encore ressuscité et glorifié. Ça viendra au troisième jour. Et glorifié lorsqu'il remontera au ciel. Donc le brigand va accompagner Jésus auprès du Père de Jésus, de Dieu, après la mort. Donc, à travers ce texte-là, cette parole de Jésus, il s'agit de l'acquisition du salut, c'est-à-dire que le brigand va être, il est sauvé, et que c'est le salut par la foi et l'acceptation de Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu. Et ça symbolise que le brigand, toute l'étendue de la grâce divine. Et le regard que Jésus qu'il porte est capable de décoder ce qui est à l'intérieur de chacun. Ce qui est aussi une leçon pour nous. Alors, des fois, bon, on ne sait pas toujours comment faire, mais ce qui demande quand même que lorsqu'on essaie de connaître des gens, il faut aller un petit peu au-delà des apparences. Et il y a une autre chose qui nous permet de prendre en considération nos frères et sœurs, c'est aussi le lien spirituel qui lie les croyants entre eux. Parce qu'on a tous été adoptés en Christ et on fait tous partie de la famille des enfants de Dieu. Et en plus, Jésus le rappelle quand il dit « Tu seras avec moi ». Alors maintenant, c'est cette parole un peu mystérieuse, un peu qui est troublante, c'est « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, dans Matthieu, il est dit « Élie » et dans Marc, il dit « Eloi ». Bon, ce sont un mélange d'hébreu et d'araméen. Ça signifie que… Alors, ça signifie Dieu, et certains ont cru qu'il parlait du prophète Élie. Soit par moquerie ou soit par incompréhension, parce que on disait que Jésus avait un accent galiléen, donc peut-être qu'ils n'arrivaient pas à bien comprendre ce que disait Jésus. Alors une petite parenthèse, Élie, bon, il ne s'agit pas d'Élie le prophète, mais il a quand même son importance, Élie, hein. Il y a d'autres textes qui disent que Jean-Baptiste, comme Élie, il est un type du prophète Élie du Nouveau Testament. Jean-Baptiste est l'Élie du Nouveau Testament. Alors, bon, c'était une simple parenthèse. Alors ici, par contre, on assiste à un moment certainement qui est le plus tragique de l'histoire de l'humanité. Jésus est abandonné par son Père, parce que ce dernier ne peut pas voir le péché. Et c'est la première fois que Jésus s'adresse à Dieu sans l'appeler Père. Et il faut comprendre que l'état de souffrance de Jésus est tel qu'il ne peut plus supporter le poids. Ça devient terrible, quoi. Et son cri marque une forme d'impatience du supplice. Alors, il savait que la crucifixion serait insoutenable, mais je pense qu'il ne pensait pas que dans son humanité, que cela peut-être allait durer aussi longtemps. Donc, Jésus se sent abandonné et personne ne pourra le secourir. C'est une petite séquence comme ça. Et Jésus est pleinement homme et en même temps, il porte tout le poids du péché de ceux qui sont rachetés. Et à aucun moment, Jésus n'a été victime involontaire de la crucifixion. Et cela a une importance dans la façon dont nous gérons notre vie et à la place qu'on accorde au Christ crucifié. Ce fait montre l'obéissance du Fils, ce qui est exemplaire pour chacun de nous. En effet, ça nous enseigne que je dois aller jusqu'au bout de ce que je désire, de ce que je décide, quels que soient les obstacles. Alors aujourd'hui, bien sûr, on a peut-être des fois un peu tendance à se dédouaner. Aujourd'hui, on est dans une tendance à faire intervenir des facteurs extérieurs, environnementaux ou en ambiance, en disant qu'il s'agit de responsabilité collective, pour nous dédouaner en fin de compte de toute responsabilité personnelle. C'est quand même très, très tendance, et surtout avec la pandémie. Alors non, tout le contexte pourrait justifier que Jésus n'aille pas jusqu'au bout, dans la mesure où lui, dans ce contexte, était absolument pas favorable, parce que personne ne le comprenait dans ce qu'il faisait, aucun de ses disciples ne le suivait, et puis Jésus, à tout moment, il aurait pu changer la méthode et mourir certainement, aller jusqu'au bout, mais mourir dans des conditions moins féroces, moins dures, quoi. Ce que je retiens ici, c'est surtout le facteur souffrance, parce que il est resté quand même sur la croix pendant 6 heures. Et pendant les trois dernières heures, il a dû vivre le déchaînement, je dirais, du mal, du diable, parce qu'il portait tout le péché de ceux qui sont rachetés, de tous ceux qui lui appartiennent. Et c'est énorme, quoi, hein. Il devait porter le péché de tous les rachetés. Et Jésus m'enseigne à ce moment-là que la seule chose qui permet de tenir, c'est la relation spirituelle. Et pour moi aussi, c'est de ma relation spirituelle que j'ai avec Dieu. Combien de fois ai-je pensé que si j'étais loin de Dieu ou je prenais du recul, c'était à cause de l'Église ou de je ne sais pas quelle raison extérieure, alors que Jésus à Golgotha prouve absolument tout le contraire. En plus, il est même parlé de ténèbres, hein. Alors certains disent que c'est un phénomène local. Bon, moi, l'Écriture dit que c'était toute la terre, donc je ne vais pas remettre cela en question. Alors, ce qu'il faut voir aussi à travers ces ténèbres, c'est la signification spirituelle qui parle aussi des forces du mal, hein, qui se déchaînent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi je parle de ça? Ça veut dire que Dieu, au moment où Jésus prend tout le péché du monde, que Jésus impute le péché à Jésus, Dieu considère nos péchés comme appartenant au Christ. Et Dieu est rendu coupable de nos péchés. Ce qui explique qu'à un moment, il y a la rupture de communion entre Dieu et lui à la croix. Alors, tout cela, c'est quand même bien expliqué dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et un peu plus loin, dans Galates 3, verset 13, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alors, je veux vous faire comprendre combien les 3 dernières heures sur la croix ont été d'une souffrance, je dirais, indicible. Souffrance où Dieu est séparé de son Fils et où ce dernier perd tout espoir, car le supplice dure plus longtemps que ce qu'il avait prévu. Et c'est vrai que c'est un peu difficile de séparer la nature divine de la nature humaine, quoi, hein. Mais dans ce cri que pousse Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné, crie le Jésus, ben, tout simplement, s'il souffre autant, c'est parce qu'il a pris tous les péchés, et particulièrement les péchés que j'ai commis et que je commettrai jusqu'à ma mort. Alors là, on peut voir aussi sa valeur humaine qui en fait une référence, hein, une référence unique pour mesurer un peu notre vie chrétienne. Je crois que lorsqu'on prend conscience de ça, que de savoir que cette souffrance est liée à mon péché, eh ben, on doit faire un peu plus attention à ce que ça rejoint un peu le témoignage de Léo, de faire attention un peu à nos actes, à nos paroles et à nos pensées. On est capable du meilleur comme du pire et on doit être vigilant parce que aucun péché n'est gratuit. Il vient, je dirais, remplir ce temps où Jésus a souffert pour nous, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a un lien direct en notre pratique du péché et notre intention de péché et ce cri déchirant à la croix. Alors, nous comprenons mieux le caractère exigeant de Jésus pour notre engagement chrétien. De Jésus, il est toujours très, je dirais, très exigeant quand il formule l'engagement pour qu'on soit ses disciples. Hein. Jésus nous demande souvent de vivre l'impossible, c'est-à-dire ne jamais fléchir. Et il le dit hein, dans Matthieu chapitre 5 au verset 26, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et surtout dans Matthieu 10, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Alors, mais Jésus, malgré tout, sait que nous allons flancher. Et c'est lui qui va se charger de vivre cette exigence à notre place, hein, dans le fait qu'il est tenu jusqu'au bout, qu'il a été fidèle et constant. Tout ça, pourquoi? La seule chose, c'est qu'il a toujours été en relation avec son Père. Et c'est grâce à cette relation que Jésus a pu affronter les insultes, les trahisons, le rejet, les procès, il y en a eu quand même 5, la faim dans le désert, la fatigue tout au long de son ministère. Et tout particulièrement, c'est très prenant ça dans l'épisode à Gethsémané. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile à comprendre, mais c'est comme ça. Et il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, bien sûr, sur les dernières paroles de Jésus, et tout particulièrement sur ce cri d'abandon. Je dirais qu'ici, il s'agit de retenir une seule chose. La seule leçon, c'est que seule ma fidélité dans la relation avec Dieu peut m'épargner de faire le mal. Et à la croix, Jésus a fait l'impossible. Il nous demande beaucoup, mais il sait qu'on n'y arrivera pas toujours. Et c'est pour cela qu'il a accepté, je dirais, toute cette souffrance pendant 6 heures et tout particulièrement pendant les 3 dernières heures. Alors pour conclure, je dirais que les dernières paroles du Christ à la croix, elles sont en fin de compte, ils récapitulent tout ce que le croyant devrait savoir et doit faire pour vivre pleinement en Christ. Et je dirais donc que cela soit gravé en nous, un peu comme un testament spirituel. Voilà. Amen.